le titre de la conférence, appelons-la comme ça, si vous voulez. Et il est vivant, le Dieu devant lequel je me tiens. C'est une citation du prophète Élie. Je me dois évidemment de le citer pour commencer. Et il me semble que notre présence à l'Église, la foi qui nous amène ici, notamment aujourd'hui, qu'elle soit développée et qu'elle soit en recherche, ce qui est fondamental dans notre foi chrétienne, c'est de nous rendre compte que le Dieu que nous venons théoriquement rencontrer, enfin, théoriquement, c'est-à-dire que dont nous avons théoriquement l'élan pour venir rencontrer, ce Dieu-là est véritablement vivant. C'est ça qui me semble être aujourd'hui, et plus que jamais à notre époque, le point essentiel du christianisme, que vraiment Dieu n'est pas une idée, n'est pas une idole, bien sûr, mais qu'il est vivant, qu'il intervient dans l'Église et dans notre vie. Ça va être un petit peu le thème autour duquel je voudrais tourner. Ou ça se traduit autrement, ou du moins ça répond à la question, et je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais quand même essayer de développer quelque chose. Et ça répond à la question, pourquoi aller à l'église aujourd'hui? Ou du moins, pourquoi être chrétien aujourd'hui? Pourquoi avoir une vie chrétienne qui n'est pas toujours une partie de plaisir, si je puis dire, mais ça, c'est presque blasphématoire, ce que je dis là. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre de l'esprit du monde, et quelquefois, ça nous embête de faire des choses, qui nous semblent être des contraintes, alors que nous voudrions jouir d'une parfaite liberté, d'une totale liberté, d'une liberté d'utiliser le monde à notre profit, et cela, quel que soit notre âge, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, dont je fais joyeusement partie. Donc, à quoi ça sert d'aller à l'église? Je fais partie des plus jeunes, je voulais dire. À quoi ça sert d'aller à l'église? Je répète que quand je parle d'aller à l'église, c'est pas uniquement de nous rendre physiquement dans l'église pour une liturgie ou pour une messe ou pour quelque autre office. Quand je dis aller à l'église, c'est aller dans l'église du Christ, vivre, autrement dit, vivre comme des chrétiens. À quoi ça sert? Et alors que parfois, l'église nous est montrée d'une manière rébarbative. Il faut, comme si l'Église nous imposait une manière de vivre, des règles, des contraintes. Fais ceci, ne fais pas cela, parce que tu es à l'Église, il faut que, etc., etc., etc. Le but de l'Église n'est pas de nous contraindre. Le but de la vie de l'Église n'est pas de nous contraindre. Même si, évidemment, il y a des contraintes. Vous allez à l'école, vous avez des contraintes. Vous êtes marié, vous avez des contraintes. Vous avez des enfants, vous avez des contraintes. Vous avez un travail à faire, vous avez des contraintes. Toute notre vie, elle est faite de contraintes. Ça, c'est normal. Mais le but de l'Église n'est justement pas d'ajouter des contraintes les unes aux autres. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On peut pas, c'est vrai, on ne peut pas vivre comme des gens qui sont sans Dieu, qui n'ont pas d'idéal en quelque sorte. Vous pouvez pas vivre, par exemple, vous pouvez pas vivre si vous êtes marié, vous pouvez pas vivre avec d'autres personnes que votre conjoint ou votre conjointe. Si vous avez des obligations sociales, vous pouvez pas vous en abstraire pour faire autre chose. Dans tous les domaines, il y a ces contraintes. Et l'Église semble quelquefois nous en ajouter d'autres. faut pas, vous savez bien, il ne faut pas, mais je mets des guillemets, il ne faut pas empiéter sur l'intimité de ceux qui nous entourent, par exemple. Il ne faut pas convoiter ce qui appartient à d'autres, ou même ce qu'ils sont, et ne pas chercher à avoir ce qui ne nous appartient pas. Il ne faut pas se faire justice à soi-même. On ne peut pas jouir de son propre corps ou de celui des autres pour son propre égoïsme. On ne peut pas penser n'importe quoi à notre guise. Vous savez aussi qu'on ne peut pas supprimer les enfants que nous ne désirons pas et qui arrivent, ni non plus supprimer les malades qui nous encombrent ou ceux dont nous ne pouvons pas supporter la vision de la souffrance. On peut pas non plus se supprimer quand on a l'impression de ne plus avoir d'espoir devant soi, ou quand nous ne voyons plus la beauté de la vie avec Dieu et que l'on constate simplement notre propre déchéance. Tout ça semble être des contraintes, mais ce ne sont pas des lois que l'Église ajoute, c'est la conséquence même du rapport que nous avons avec celui que nous appelons notre maître. Et une partie du sujet va être de voir pourquoi on le considère comme notre maître. Mais puisque nous avons une relation avec lui, ça implique un certain mode d'existence, une certaine éthique de vie, une certaine morale de vie. À quoi ça sert d'aller à l'église? Quand on a 6 ans, à peu près, hein, on pense qu'on y va tout simplement à l'église, que papa et maman y vont. À moins de 6 ans, on se pose même pas la question, puisque papa et maman y vont, on y va aussi. À 10 ans, on y va parce que papa et maman le demandent. Là, il faut déjà un petit peu forcer. À 14 ans, on y va, mais parce que on veut pas leur faire de peine. Alors, quand même, on essaie de leur obéir. Et puis à 16 ans, on se pose réellement la question à soi-même. Mais pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais à l'église? Qu'est-ce que je vais faire dans ce truc-là? Et quand on a 18 ans, on est tenté de ne plus y aller, ou d'y aller seulement de plus en plus épisodiquement, de plus en plus rarement. C'est l'époque où l'on prend conscience de son état de pécheur, qu'on ne correspond pas toujours à l'idéal qu'on voudrait avoir de soi-même ou que les autres attendent de nous. On n'est pas toujours fier de soi. Et quelquefois, un sentiment de honte de venir à l'église nous envahit parce qu'on se croit indigne. Et dans ce cas-là, on a tendance ou à se justifier en disant « après tout, je vois pas pourquoi je le ferai pas », ou alors on se justifie aussi pour ne pas être dévoré par des remords qui nous tracassent, qui nous travaillent et qui pourraient, s'ils étaient mal gérés, tourner au complexe. Et alors, dans ce cas, on risque parfois de s'écarter de l'Église pour occulter le problème ou les problèmes, et on met une sourdine à notre âme, ce qui est un véritable suicide spirituel. Mais un jour, touché par la grâce, brutalement ou peu à peu, grâce à des circonstances, des rencontres, des événements qui nous touchent de près ou de loin, dont on est témoin, on va plus à l'église par obligation, mais on sent confusément que là, il se passe quelque chose d'important et quelque chose d'indicible. On s'y sent finalement quand même heureux, quand même, on y trouve une certaine paix, on trouve un certain épanouissement qui nous serait souvent bien difficile d'exprimer d'une manière concrète et intellectuelle. On sent que là, dans l'Église, on n'est pas jugé, ou en tout cas on ne devrait pas l'être, mais généralement on n'y est pas. On sent qu'il règne, comme je dis, une certaine paix et même une certaine beauté, une beauté que la vie dans le monde n'apporte pas, même dans les loisirs que l'on choisit pourtant et qui sont faits théoriquement pour nous épanouir. Mais ces loisirs dans lesquels on s'épanouit réjouissent une partie de notre être, mais au fond de nous-mêmes, beaucoup plus profond que cela, il y a une inquiétude qui demeure et où seule notre présence à l'Église répond par une certaine paix qui nous touche au plus profond de l'âme, car nous avons une âme dont on n'a pas toujours conscience, mais qui existe chez tous. Enfin, on finit par découvrir que les paroles de l'Évangile que l'on entend, ou par chance que l'on lit quelquefois, ont véritablement un sens. Quelles sont les paroles du Christ? Ça, c'est évident. Mais que nous dit le Christ? Il ne vient pas ajouter, comme je vous disais pour commencer, des contraintes supplémentaires et une loi, mais il vient nous révéler qui est Dieu et comment Dieu nous aime. Il vient nous révéler justement comment celui devant lequel nous nous tenons, Dieu, est véritablement vivant. Dans l'Église, on s'y sent malgré tout aimé et pas jugé, comme je vous disais. Alors, dans ce cas, on y vient cette fois-ci pour une rencontre, pour la rencontre, si je puis dire. La rencontre, pas exceptionnelle, puisqu'elle doit être quotidienne, mais la rencontre extraordinaire, merveilleuse, une rencontre d'abord avec Jésus vivant, puis on sent confusément, si on approfondit un petit peu notre vie dans l'Église, qu'il nous amène vers le Père. Et cheminant avec lui vers le Père, on s'aperçoit intimement, mais ça c'est toute une expérience, que finalement cette découverte du Père à travers le Fils ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas de notre réflexion, ne vient pas de notre étude, de nos lectures ou de notre ascèse, mais elle vient de la personne même de l'Esprit-Saint qui devient maintenant vivant pour nous et qui engendre en nous une vie, un dynamisme intérieur qui nous force, par exemple, à nous lever tôt pour venir à un office ou à la liturgie, à rompre avec nos travaux ou avec nos loisirs, comme vous le faites en ce moment même, qui nous tire quelquefois violemment de notre lit, dont nous aimerions encore un petit peu caresser l'oreiller, ou consacrer une matinée entière de route et une station debout dans une église ou trop chaude ou trop froide, remplie de monde pour quelque chose qui finalement nous semble supérieur. Persévérant encore dans cette découverte et dans ce cheminement, on découvre que Dieu vient. Non seulement qu'il existe, mais qu'il descend, vivant, et que, en venant au milieu de nous et en nous, il nous unit aussi à tous ceux qui nous entourent et avec lesquels on n'a pas forcément de sympathie préalable. Mais on se rend compte aussi que non seulement ce Dieu que l'on rencontre nous unit avec ceux qui sont immédiatement présents, les 50 ou les 200 personnes qui sont là à la célébration, mais aussi avec tous ceux qui éventuellement sont morts depuis longtemps et qui avaient suivi la même voie. Je parle évidemment des saints et des martyrs, qui ne sont pas simplement des noms dont on peut lire les récits de la vie dans des livres qu'on appelle le synaxaire, les récits des livres, les récits des vies des saints. Et, mais qui ont maintenant pour nous des visages, qui sont vraiment des personnalités avec lesquelles on est de fait en communion et que l'on apprend à aimer d'un amour qui n'est pas un amour affectif. Comment voulez-vous que j'aime affectivement quelqu'un qui est mort il y a 200 ans ou 1800 ans? Mais il y a une autre forme d'amour que l'on découvre, et ce sont ces saints-là qui, par la force du Saint-Esprit, nous communiquent ce qui les unissait, c'est-à-dire l'amour qu'ils avaient en eux de Dieu et qu'ils répercutent chez nous, de manière à ce que nous apprenions nous aussi cet enthousiasme d'aimer et d'être aimé. De cette manière-là, on se sent uni avec tous les défunts, tous nos ancêtres, nos familles, nos connaissances, tous ceux qui nous ont quittés, soit par une mort prématurée ou violente, ou parce qu'ils étaient âgés. Mais là, les circonstances de la vie n'importent plus. C'est la personne, les personnes elles-mêmes avec lesquelles on se trouve en contact à travers le Christ, parce que, comme je vais peut-être essayer de vous le dire à un moment donné, nous formons véritablement un corps unique. Avec l'aide de l'Esprit Saint, on devine peu à peu qu'à travers les sublimes symboles de la liturgie, on devient sensible, objectivement, réellement, on devient sensible à ce que l'on appelle la gloire divine. On parle toujours de la gloire divine, mais qu'est-ce que c'est? On a l'impression de ne pas la voir. Mais à la liturgie, et je parle de la liturgie au sens large du terme, à travers les icônes, ce sera en partie le sujet de notre intervention de demain, à travers le contexte, à travers tous les symboles, tout ce qui fait la prière et le contexte de la liturgie, on perçoit le reflet de la gloire de Dieu. Et on sait, on se rend compte à l'intérieur de nous-mêmes que ce ne sont pas des sentiments de beauté ou d'équilibre ou d'harmonie, mais que c'est véritablement la découverte d'une beauté qui dépasse la beauté du monde, dont on a les reflets simplement à travers l'icône, à travers les rites, à travers les prières, à travers les vêtements liturgiques, ou je ne sais quoi encore. Et assumant tout cela, notre être, notre personne, notre cœur apprend à dépasser ces symboles, à dépasser ces signes sensibles, ces signes visibles, pour ne plus percevoir que la gloire de Dieu elle-même, qui est comme cachée, qui se révèle à travers ces symboles. Voilà ce qu'on vient chercher et ce que l'on trouve dans l'Église. Et ne croyez-vous pas que aujourd'hui, comme à toute époque, ce qui nous manque justement, c'est cette conscience, cette vision d'une beauté, d'une harmonie, d'une gloire qui ne vient pas du monde. Parce que l'homme a besoin, mais là je crois que j'empiète sur le ce que nous aurons à dire demain, mais parce que l'homme ne peut pas se contenter d'une harmonie simplement horizontale, ne peut pas se contenter d'un monde qui est aussi éphémère que nous le savons, car la vie pour les uns comme pour les autres est relativement courte. Même si on arrive à 120 ans, qu'est-ce que c'est 120 ans dans l'histoire dans l'histoire du monde? Une miette. Tout à l'heure, s'il ne pleut pas, nous irons voir l'église en cours de construction. Et dans la coupole, vous verrez, il y a une grande icône circulaire qui représente le Christ qu'on appelle le Christ Pantocrator. Pantocrator veut dire tout-puissant. Il est le Christ tout-puissant, Parce que la manière dont il est représenté, c'est le Christ qui a terminé sa carrière sur terre et qui est remonté en gloire auprès du Père et qui réunit en lui tout le cosmos et toute l'humanité. Il est, c'est marqué dessus d'ailleurs, l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin de choses, mais je ne vais pas vous faire un cours d'iconographie tout de suite. Mais ayez l'œil sur le Pantocrator. Il est le Tout-Puissant, et quand vous allez le voir pour la première fois, il va, j'espère, vous effrayer. J'oserais dire, je ne pensais pas à vous le dire, mais j'oserais dire que il peut vous effrayer comme nous effraie quelquefois la première vision qu'on a de l'Église sous ses formes de contraintes, justement. Il faut faire ceci et ne pas faire cela. Mais si on dépasse cette contrainte, on découvre autre chose, on découvre une liberté intérieure, on découvre cette expérience glorieuse de la présence de Dieu en nous qui nous fait dépasser nos propres limites. Eh bien, si vous regardez le Pantocrator dans la coupole de l'Église, vous verrez évidemment qu'il est représenté d'une manière toute puissante. Il est représenté énorme, pas boursouflé, mais énorme, c'est-à-dire, il remplit presque toute cette partie de la coupole. Il a des gestes, il étend les mains comme ça, comme s'il allait embrasser toute la terre. Et vous le voyez, pour ceux qui connaissent un peu l'archéologie, il est un peu représenté comme on représente Zeus dans les peintures ou dans la statuaire grecque ou romaine, comme celui qui commande même au tonnerre, qui tient la foudre dans sa main pour montrer qu'il est capable de détruire même le monde. Eh bien, notre Seigneur, notre Christ, il est représenté comme ça, tout puissant. Mais effectivement, il est tout puissant puisqu'il est le roi de le ciel et de la terre. Mais si vous le regardez avec un autre regard, non pas comme quelqu'un qui a peur, mais quelqu'un qui se laisse englober par lui, vous verrez dans son regard, pourtant terrifiant, vous verrez en même temps une bonté, un appel pressant, patient, à une réponse de notre part, à sa grandeur, qui attend que nous venions vers lui et que nous laissions aimer, qui est sans concession d'une certaine manière, mais qui en même temps est plein de bonté et cherche à nous englober, à nous prendre dans son amour. Si je vous parle de ça, je ne sais plus pourquoi. Oui, que ce Dieu tout-puissant, représenté dans la coupole, ce Dieu qui nous semble terrifiant, c'est justement celui que l'on rencontre aussi pendant la liturgie et pendant toute notre vie chrétienne, qui a su, qui a voulu librement, qui a choisi de se rapetisser volontairement pour prendre la taille d'un homme, non seulement la taille physique, mais toute la dimension d'un homme. Lui qui est Dieu Tout-Puissant, il est devenu, tout en restant ce Dieu Tout-Puissant, il est devenu aussi un homme, et même un petit enfant, et même un embryon avant d'être un petit enfant. De manière à ce que, en nous apparaissant progressivement comme cela, il ne nous effraie pas avec sa gloire, mais qu'au contraire nous ayons presque pitié de lui, et que nous le prenions pour l'un des nôtres, afin que nous laissions envahir par un amour qu'il nous donne et que nous ne pourrions pas, que nous aurions peur de recevoir si c'était d'un être tout puissant. Celui-là, il accepte d'être compté, d'avoir été compté, et encore aujourd'hui, comme le dernier, d'être pris pour ce qu'il n'était pas, d'être pris pour un brigand et pour un blasphémateur, et d'être mort à cause de ça, mais par amour pour nous. Et de mourir en devenant aussi petit que chacun, donc aimable et digne d'être aimé, mais sans peur de notre part. Car celui que vous verrez tout à l'heure, le Pantocrator, celui que nous venons trouver, qui est la raison de notre vie dans l'Église, celui-là se montre aussi à nous comme un mendiant d'amour, comme quelqu'un, un Dieu qui attend, qui mendie auprès de nous une réponse amoureuse. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'amour dont il est question avec Dieu n'est évidemment pas un amour affectif. Je peux aimer Thérèse et Jean-Paul, mais aimer Dieu de la même manière, ça ne convient plus. Il est d'un autre ordre. Mais aimer Dieu, c'est d'abord croire en lui, comme nous le verrons demain. C'est croire que véritablement il est Dieu et qu'il peut intervenir dans notre vie. C'est estimer qu'on peut normalement, joyeusement, avec enthousiasme, consacrer notre vie à lui, qu'il est digne qu'on lui consacre notre vie, parce que justement, ce que l'on reçoit en retour est tellement supérieur, même si notre amour ne consiste pas à attendre quelque chose de lui, mais à lui donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons, et même tout ce que nous voulons. Pourquoi on va à l'église aujourd'hui? On va à l'église aujourd'hui aussi parce que nous avons entendu sa demande lorsqu'il était physiquement, visiblement présent sur terre. Il a demandé, venez, prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si je peux lui attribuer des sentiments humains, je dirais, comment peut-on ne pas répondre à un Dieu qui a pris la peine de descendre sur terre, de quitter le ciel dans lequel il était en gloire, pour venir sur terre, avoir tous les ennuis qu'on lui a fait, souffrir, être tenté, être accusé injustement, et finalement être crucifié? Un Dieu qui accepte ça par amour pour nous, comment avoir le cran, le toupet, de lui dire « ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de toi ». Ne pas le connaître, c'est autre chose. Mais le refuser comme ça, ne croyez-vous pas que c'est parce que on n'a pas encore compris quelle est la profondeur de sa relation avec nous, là, quelle est la profondeur de l'amour qu'il a pour nous. Et si nous ne sentons pas encore dans notre cœur quelle est la profondeur de cet amour, mais lisons simplement les Saintes Écritures, lisons simplement l'Évangile, comme je vous dis tout à l'heure, et l'expression par Jésus, qui est la révélation par Jésus de l'amour que le Père a pour nous. Et si nous ne sentons pas l'amour de Dieu, faisons confiance à celui qu'il connaît de près, puisqu'il est Dieu lui-même, le Christ, et faisons-lui confiance en acceptant cet amour. Et vous verrez que par un phénomène, si je peux l'appeler comme ça, d'échange de lui à nous et de nous à lui, il va nous communiquer une dimension que nous ne connaissons pas a priori, une dimension de relation, une dimension d'amour qui va faire que notre regard va complètement changer. Pourquoi va-t-on à l'église? On y va aussi parce que si on a un tout petit peu conscience de ce que nous sommes, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas toujours des raisons d'être bien fiers. On se rend compte de nos limites. Et une des premières limites qui nous saute au visage, c'est la brièveté de notre vie. Que notre vie est pour un certain temps sur terre, mais un temps très, très limité, et après, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vraiment Dieu aurait pris le malin plaisir de créer des hommes pour qu'ils triment sur terre pendant quelques années avec des petites joies de temps en temps quand même, pour qu'au bout de 100 ou 120 ans, ou moins éventuellement, tout d'un coup la vie cesse et que tout ça soit terminé? Tout homme aspire évidemment à autre chose. Et cette vision Nous savons qu'elle nous cette vision limitée vient de notre condition qu'on appelle déchue. Il faudrait refaire toute l'analyse de l'histoire de l'humanité, de la raison d'être, de la création. On ne peut pas traiter tous les sujets en une demi-heure, en une heure. Mais à l'origine, Dieu nous avait créés de manière à ce que nous soyons, que nous ayons une vie éternelle. Et c'est parce que l'homme et nous-mêmes personnellement adhérons à une rébellion contre Dieu qu'on s'est séparé de cette vie et qu'on est maintenant limité dans le temps. Mais justement, ce Dieu qui a quitté le ciel pour venir parmi nous, vivre parmi nous, non seulement a été un exemple pour nous de la manière dont il fallait vivre, mais il a, prenant toute notre nature, il a rechangé, il a reformé, restauré la vie qui était la nôtre avant le péché, de manière à nous permettre de redevenir éternels comme nous l'étions à l'origine. Si bien que même la mort et même le péché, nos péchés personnels, ne sont plus qu'une limite momentanée et que par la vie dans l'Église, la mort elle-même est dépassée et elle nous amène à une vie éternelle qu'on appelle la résurrection. Je vais un petit peu vite dans les synonymes, mais il ne faut pas trop préciser les termes, si vous voulez. La vie éternelle n'est pas la résurrection, mais par la résurrection, on accède à la vie éternelle. Et donc, pour quelle raison on va à l'Église ? On va à l'Église parce que là, pendant le temps de vie qui nous est donné, à partir du moment où on opère cette conversion dont je parlais tout à l'heure, cette évolution où l'on va à l'Église librement pour rencontrer notre Dieu vivant, on découvre, à ce moment, on trouve véritablement une guérison. La guérison, c'est-à-dire l'accession à une nouvelle vie, qui n'est pas simplement un espoir qui nous est donné que après notre mort, une récompense nous serait accordée, qu'on appelle la vie éternelle, le paradis ou le royaume des cieux, mais nous découvrons une vie nouvelle qui vient du fond de notre âme et qui est déjà aujourd'hui une résurrection par rapport à la vie du déchu qui était la nôtre avant notre baptême et avant notre conversion. Et la vie dans l'Église alimente la présence à l'Église, la réception des sacrements, la lecture des Saintes Écritures, de l'Évangile, les prières personnelles ou communautaires, et les bénédictions qui sont faites, les icônes qui nous entourent, tout ça nous amène à donner une alimentation, une nourriture à cette vie. Et Dieu sait combien d'années nous sont nécessaires, et c'est différent pour les uns et pour les autres, combien d'années nous sont nécessaires pour que nous ayons enfin soif de recevoir cette révélation et que nous commencions à utiliser cette révélation, à la faire fructifier, à la faire se développer de manière à ce qu'elle domine, à ce qu'elle illumine plus exactement toute notre vie. On parle de la foi. Je voudrais faire une petite remarque à ce sujet-là. D'une certaine manière, on n'est pas libre de croire ou de ne pas croire. On est libre aux yeux des hommes. Personne ne peut vous obliger à croire ou à ne pas croire. Ça, c'est évident. Personne ne peut nous forcer, personne ne peut nous imposer la foi. Si personne ne peut nous juger, ou ne devrait pouvoir nous juger, en réalité, par rapport à notre conscience, nous ne sommes pas libres. Je ne veux pas vous scandaliser. Je prêche aussi pour la liberté. Mais la liberté qui est la nôtre, c'est une liberté que nous avons en Dieu. Dieu, il n'attend pas pour exister que nous l'acceptions, que nous le refusions. Dieu, c'est un être objectif. Il existe réellement. Historiquement et réellement, il s'est véritablement incarné. C'est indéniable. On peut ne pas vouloir y croire. On peut vouloir ne pas suivre son évangile, ses préceptes. On peut vouloir s'affranchir de ça. Mais objectivement, Dieu existe. Donc, dans notre conscience, nous ne sommes pas libres de l'accepter ou de le refuser. Qu'est-ce que vous voulez ? Notre être est fait comme ça. Dieu nous a créés avec de la matière, notre corps, un esprit, une intelligence, une pensée, une réflexion, une logique. Mais il nous a créés aussi, qu'on le reconnaisse ou pas, avec une âme qui est quelque chose, qui est une faculté qui correspond à ce qu'est Dieu. Et il y a une communauté, il y a une ressemblance entre l'être de Dieu et quelque chose de notre être à nous. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, le monde ne veut pas le reconnaître. C'est hélas son problème, mais nous le reconnaissons et cette reconnaissance-là s'impose à nous. Parce que la foi est une réalité que j'appellerai un peu savamment une réalité ontologique. Elle vient du sens même des choses. Et la foi, elle est une... la foi chrétienne, j'entends pas, je parle pas de la foi en un au-delà, en l'existence d'un hypothétique Dieu, mais la foi chrétienne, elle est une, encore un mot savant, elle est une épiphanie, c'est-à-dire elle est une manifestation. La foi est une incarnation qui s'impose à nous de l'être de Dieu qui s'est fait homme, non seulement qui est venu vivre dans le monde, mais qui vient vivre dans le cœur de chacun d'entre nous. Et tout notre problème, tout le problème de notre épanouissement personnel est la reconnaissance ou non de ce don que Dieu nous fait de son incarnation à l'intérieur de nous-mêmes. Plusieurs, vous avez des dons intellectuels ou artistiques les uns les autres, chacun les siens. Et vous pouvez en avoir et ne pas vouloir les développer ou ne pas pouvoir les développer, mais vous les avez. Eh bien, de la même manière, nous avons cette faculté en nous-mêmes de recevoir la présence de Dieu et de connaître Dieu d'une certaine manière autrement que purement intellectuelle. Et notre épanouissement dépend de l'énergie, de la force avec laquelle on veut découvrir ce sens à l'intérieur de nous-mêmes et le développer avec la grâce de Dieu. Certes, parce que nos forces ne suffisent pas. Nous sommes formés d'un corps, nous avons des sens, nous avons une intelligence, nous avons une pensée qu'on ne sait pas trop bien située, nous avons un pouvoir de choix et de décision, nous avons aussi un cœur pour aimer ou pour haïr. C'est la même chose, mais à l'inverse. Nous avons des dons intellectuels ou des dons artistiques, mais nous avons aussi une âme, un organe de connaissance véritable, d'une connaissance qui est aussi objective que la connaissance intellectuelle que les uns et les autres pouvons avoir. Nous avons une âme pour percevoir et pour recevoir ce qui est spirituel à nous, de le développer ou de l'éteindre. Et notre présence à l'Église, c'est justement, précisément, de recevoir la nourriture pour développer ce sens intérieur. Quand on va à l'église, j'essaie de vous montrer pourquoi on y va, pourquoi on est dans l'église plus exactement. Quand on est à l'âge adulte, spirituellement parlant, je ne parle pas d'âge chronologique. Quand on est à l'âge adulte, on y va parce qu'on a découvert quelque chose et parce qu'on veut y aller. Donc, on y va tout de même parce qu'on y croit. Ou tout du moins, on y va au moins parce que on croit que si on y va, on va recevoir quelque chose, on va y trouver quelque chose. Donc, c'est parce que l'on cherche. On va à l'église parce qu'on cherche une vie. Mais croire, autrement dit, avoir la foi, c'est aussi faire confiance à nos prédécesseurs. Si je vais à l'église, moi qui n'ai pas des révélations plus profondes et plus élevées que les vôtres, si je vais à l'église, c'est parce que je fais confiance aussi à ceux qui m'ont précédé, à mon père et à ma mère, à ceux qui m'ont éduqué spirituellement, à mon père spirituel, aux témoins contemporains, à ceux qui m'entourent et qui ont le témoignage de l'existence vivante de Dieu et de l'intervention de Dieu dans leur vie, et ils me disent que Dieu intervient dans la mienne. Alors, à cause de ça, dans un premier temps, je leur fais confiance, même si moi, je ne sens rien à côté des saints qui vous entoure, Saint-Nectaire d'Égine, Saint-Martin de Tours, dont on célèbre la fête aujourd'hui, Saint-Arsène de Cappadoce, dont c'était la fête hier, et puis tous les autres que vous connaissez, tous ceux-là ont eu l'expérience vivante de la présence de Dieu qui les faisait croître et qui changeait leur vie véritablement. Et moi, qui suis balourd, plouf plouf, et qui ne ressent rien de cela, au moins, je vais à l'église parce que je leur fais confiance, et constatant que Dieu a changé leur vie, je me dis qu'après tout, pour moi aussi, il pourrait peut-être changer ma vie. Si je le dis dans ces termes-là, c'est pour vous montrer que la foi, la raison d'aller à l'église, nous vient de notre lecture, notre audition de la parole de Dieu dans les évangiles, mais aussi elle tient au témoignage de ceux qui nous ont précédés. Et comment peut-on être sûr que celui qui s'est fait appeler Jésus, qui tantôt s'est fait appeler le Fils de l'homme, tantôt s'est fait appeler le Fils de Dieu, comment peut-on être sûr qu'il est véritablement Dieu? Et si moi je vous dis que je suis Zeus, vous allez me croire? Non. Et comment alors, Jésus, on peut croire ce qu'il nous a dit? On peut croire ce qu'il nous a dit parce qu'il l'a montré, il l'a exprimé, il l'a montré en faisant des miracles, il nous a montré des signes indéniables qui sont racontés par les apôtres, qui en ont été les témoins et qui ont dit voilà ce que Jésus nous a montré. Et après, les mêmes apôtres ont dit, mais quand il nous a montré cela, cela signifiait, cela voulait dire que. Et puis après eux, leurs successeurs, les grands évêques et tous les chrétiens, les martyrs, tous les uns après les autres ont dit, celui-là qui avait vu un tel, qui avait vu le Christ, nous certifie que c'est comme ça. Donc par une espèce de chaîne ininterrompue depuis 2000 ans. On se raconte avec des témoignages précis quelle était la vie, la signification de la vie du Christ. Donc nous avons la certitude objective que ce Christ dont on parle beaucoup, mais dont on fait quelquefois peu de cas, véritablement celui-là était Dieu et que il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc il est encore ici et maintenant avec nous aujourd'hui et jusqu'à toujours. L'expérience de ceux qui nous ont précédés, si on apporte un peu de crédit à leur témoignage, devient notre propre expérience. Les saints, les martyrs, les saints apôtres, les saints dont vous lisez les vies, dont vous entendez parler, ont eu une expérience de Dieu. À force de les côtoyer, d'embrasser leurs icônes, de leur demander d'intercéder pour nous, d'embrasser leurs reliques quelquefois, ils nous communiquent, ils nous distillent, comme un goutte à goutte, ils nous distillent quelque chose de ce qui faisait leur vie et ils nous communiquent ce qui était leur propre expérience de Dieu. Chacun de nous, Dieu est tellement immense, vous comprenez, chacun de nous peut avoir une expérience différente d'un Dieu pourtant unique. Et tous ces saints-là ont eu des expériences différentes de Dieu qui pourtant est unique dans son être. Eh bien, nous-mêmes, il nous communique les uns les autres ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est utile pour nous découvrions à notre manière aussi comment est Dieu, comment Dieu agit en nous, comment il vit en nous et comment nous pouvons recevoir l'illumination de lui et propager cette illumination à ceux qui nous entourent. J'ai déjà un peu évoqué, mais non seulement il y a les raisons pour lesquelles on vient à l'Église, mais il faut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce que nous apporte l'Église. La question est presque mauvaise. Parce que si je me pose de cette manière-là la question « qu'est-ce que l'Église m'apporte ?», je vais venir comme un consommateur. Et à ce moment-là, je vais passer à côté de la présence de Dieu. Cependant, si nous venons parce que nous savons que Dieu y est présent et que nous voulons le rencontrer, à ce moment-là, notre expérience de ce Dieu immense et infini va nous éclairer et voir quel est le rôle, à quoi sert l'Église, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le monde. Que nous apporte l'Église? Elle nous apporte d'abord, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, un salut. Car notre condition actuelle, c'est une condition déchue, une condition défigurée par rapport à ce que Dieu avait conçu. Et notre vie aujourd'hui, d'une manière purement humaine déchue, est une non-vie. C'est une survie, si vous voulez, biologique. Mais la vraie vie, c'est pas la biologie. La vraie vie, elle est à l'intérieur. C'est la vie de Dieu qu'il nous communique. Et c'est sa vie à lui qui est notre vie, donc éternelle. Et c'est ça que l'on peut découvrir. Donc, c'est ça le salut. Le salut consiste à vivre personnellement et aujourd'hui l'incarnation même du Christ. Notre vocation, c'est de faire naître en nous des nouveaux Christ, évidemment il n'y en a qu'un, mais d'incarner en nous, en chacun d'entre nous, le Christ unique de manière à ce que nous ne fassions plus qu'un seul corps. Et un seul être. Et comme lui est à la fois Dieu et à la fois homme, en devenant homme et en prenant notre nature, en l'unissant à ces deux natures humaines et divines, il nous unit par voie de conséquence, il nous unit aussi à la divinité. Donc qu'est-ce que nous apporte l'Église? L'Église nous apporte la divinisation. Elle fait nous des dieux. Excusez du peu, quand même. Elle fait de nous des dieux, non pas des dieux différents et juxtaposés. Nous ne sommes pas des polythéistes, cherchez le mot. Nous ne croyons pas en plusieurs dieux, mais nous sommes des êtres multiples et nombreux à pouvoir communiquer, à recevoir une vie unique, celle de Dieu, d'être un en Christ avec le Père et le Saint-Esprit. L'Église nous apporte encore un contact, un contact multiple. un contact avec le Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit. Ça vous paraît aujourd'hui peut-être un vocabulaire. Qu'est-ce que viennent faire le Père, le Fils, l'Esprit? On se mélange, on ne sait plus trop. Qu'est-ce que c'est leur nature? Qu'est-ce que c'est que leur personne? Et tout ça. Mais dans l'Église, ça devient une expérience. Je ne vais pas faire le test, mais je peux demander quelquefois à des plus jeunes s'ils ont l'expérience du Saint-Esprit, et je suis sûr qu'ils me répondent oui. Si je leur demande comment ils en font l'expérience, ils ne pourront peut-être pas le dire. Mais cette expérience-là, ils la font véritablement, parce qu'elle nous est naturelle. Et les contacts qui s'établissent non seulement est avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qu'on va découvrir petit à petit, mais c'est aussi un contact avec le monde angélique, avec les anges. Il est bon ton aujourd'hui de ne plus croire aux anges, mais les anges, ils nous entourent, les anges, ils vivent en nous, les anges, on les côtoie tous les jours, on les voit pas avec les yeux de la chair, mais si on a un œil intérieur dont on parlera demain, les anges, on peut les voir, il est naturel de les voir, il est naturel de vivre avec eux. Mais le contact, il ne se fait pas simplement non plus avec les anges, mais il se fait avec tous les hommes, non seulement avec vous, un 80 qui êtes ici, mais avec tous ceux qui habitent à des centaines de kilomètres, ceux qui sont restés à la maison, ou comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui sont morts déjà, qui sont morts avant nous, qui nous ont précédés, que ce soit depuis 8 jours, ou depuis aujourd'hui, ou depuis des centaines et voire des milliers d'années. L'Église, elle nous apporte ce contact avec tous, et même avec tout le cosmos. C'est l'univers entier qui a été créé pour être une nourriture pour l'homme, et qui est que l'homme englobe en quelque sorte par la sainteté qu'il reçoit de Dieu et qu'il communique à ce cosmos, à toutes les galaxies, au monde matériel et au monde non matériel qui nous entoure. L'Église nous apporte ce rapport avec Dieu à travers les sacrements qui crée une situation. Les sacrements nous mettent dans un contexte. Les sacrements déposent en nous des germes de cette vie éternelle, de cette vie divine. Et on vous recommande de prier. L'Église vous recommande de prier. Moi aussi d'ailleurs. Et l'Église nous recommande ça. Mais de manière à ce que, par la prière, nous fassions véritablement l'expérimentation de ce que la foi de l'Église nous présente et auquel nous essayons laborieusement de participer. Mais avec les sacrements, avec la prière, il y a aussi la rébarbative ascèse qui fait retrancher de nous volontairement les inclinations égocentriques qui nous séparent de la vraie vie. Et par cette ascèse qui nous fait oublier notre égoïsme, on crée le Saint-Esprit crée une brèche dans notre cœur, de manière à ce que par cette brèche puisse s'engouffrer un petit peu quelque chose de la vie divine, et qui peu à peu prend racine et s'élargit jusqu'à dominer notre être tout entier. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans l'Église? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'Église? On trouve, comme je vous disais tout à l'heure, une nouvelle vie. À travers la maladie, dont tous, à laquelle nous sommes confrontés tous, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, dans l'Église, en recevant l'Esprit Saint, nous trouvons une transfiguration de la souffrance et de la maladie. Nous voyons que la maladie n'est pas simplement une déchéance, elle est certes une déchéance biologique, mais elle est en même temps un appel et pour beaucoup une grâce pour dépasser notre égoïsme personnel et enfin à nous révéler ce que nous sommes véritablement, des êtres de communion qui oublions notre souffrance ou nos drames personnels pour continuer à faire des sourires à ceux qui nous entourent, à remercier ceux qui nous soignent, à ne pas être exigeant avec notre entourage, à être patient envers les malades qui pompent notre énergie, notre temps et notre affection. Et tout cela nous est rendu possible par la présence du Christ et de l'amour du Christ qui est en nous, et c'est cet amour-là que nous répercutons sur les autres. Qu'est-ce que l'Église nous apporte encore? Mais lorsque vous vous mariez à l'Église, j'entends, avec le sacrement de l'Église, mais votre mariage prend une toute autre dimension, d'accord, il faut toujours que vous fassiez la vaisselle pour aider madame, d'accord, il faut encore que vous travailliez pour amener de l'argent à la maison, d'accord, quelquefois vous n'êtes pas toujours d'accord sur certaines choses, il y a les contraintes aussi de la vie conjugale, mais en même temps, il y a un amour, je ne parle plus de l'amour affectif qui unit l'homme et la femme dans le couple, mais je parle d'un autre amour dont le premier n'est que l'image, et cet amour-là crée une union telle entre les deux personnes qu'elle est pour le monde, je ne dis pas pour les hommes, mais elle est pour le monde le témoignage, l'expérience, l'incarnation, comme je disais tout à l'heure, d'une autre réalité, c'est-à-dire de la réalité de l'union de ce Dieu qui s'est incarné en Christ pour s'unir aux hommes. Dieu et l'homme se sont unis par l'incarnation, et quand, monsieur et madame, vous êtes unis par le sacrement de mariage, vous manifestez effectivement au monde, vous montrez au monde cette réalité de la communion, de l'union du Christ avec les membres de l'Église. Est-ce que votre mariage, à ce moment-là, n'acquiert pas une autre dimension? Et quand vous avez des difficultés, voire des drames, est-ce que il ne vaut pas la peine de les porter aussi avec patience et avec foi, sachant que justement, dans cette union du Christ et de l'Église, lui-même a souffert, a été crucifié et mort injustement pour créer, pour assumer cette réalité d'union de Dieu et de l'homme, et nous-mêmes dans notre mariage, pour ceux qui sont mariés, et pour nous-mêmes dans notre mariage, est-ce que nous ne pouvons pas supporter aussi avec le Christ, au nom du Christ, avec sa force à lui, les échecs, les douleurs, les difficultés, les drames qui peuvent survenir, sachant que c'est sa croix que nous portons et que c'est sa résurrection, sa transfiguration qu'à travers ça il va nous communiquer. J'arrête dans un instant. J'évoquais tout à l'heure que les hommes ne peuvent pas se contenter, n'est-ce pas, de vivre horizontalement, de vivre que pour les choses de ce monde. Ils ont besoin d'une dimension verticale. C'est inhérent à notre être. Nous sommes construits comme ça. Nous avons besoin de cette verticalité. Verticalité que, dans un monde qui oublie Dieu, on va chercher dans des sectes, dans des méditations transcendantales et illusoires, mais qui ne font que plonger encore la personne dans un renfermement individuel. On va chercher cette verticalité dans des cercles ésotériques, dans l'espoir de connaître le sens, dit-on, caché des choses, ou de la vie. On va chercher une verticalité dans des cercles de spiritisme, pour entrer en relation avec le monde des esprits. Eh, ça arrive quelquefois, mais les esprits sont pas toujours bons. Et quand on va les chercher comme ça artificiellement, c'est rarement les bons esprits qui se manifestent. Ou alors on veut rentrer en relation avec les esprits ou les âmes des morts. où on va chercher encore cette verticalité dans la drogue qui donne l'impression de sortir de soi et qui fait momentanément effectivement oublier nos limites, mais pas pour un approfondissement de notre être, qui nous fait oublier nos échecs, mais par illusion, qui nous fait oublier notre tristesse, et finalement qui voudrait nous faire oublier le vide de notre vie, mais qui effectivement nous conduit encore plus vers le désespoir et de la mort. Alors que dans l'Église, on découvre cette verticalité dont nous avons besoin, parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres verticaux, non seulement parce que nous avons les pieds sur la terre et la tête tout de même dans le ciel, même si c'est qu'à 1,80 m, mais parce que nous sommes des êtres formés de matière et d'esprit, donc nous sommes à la fois présents avec le Christ sur terre et déjà dans le ciel. Nous sommes nous aussi, chacun de nous, comme le Pantocrator que vous allez voir tout à l'heure, nous sommes tout puissants, non pas d'une puissance personnelle évidemment, mais par communion avec lui, nous dominons le monde, nous sommes tous les seigneurs du monde, nous sommes les maîtres du monde, comme le Seigneur nous l'a dit, il a créé l'homme pour que l'homme soit le maître de la nature, qu'il la gère et qu'il la domine, et c'est ça que nous sommes tous ensemble en Église et pas simplement individuellement. En guise de conclusion, cet idéal que j'essaie de vous présenter nous semble quelquefois compliqué, non seulement rébarbatif, comme je vous le disais en commençant, mais ça nous semble compliqué à comprendre. Il est vrai que dans notre éducation, on nous éduque, on éveille à l'école, on éveille nos sens intellectuels, mais que bien souvent, notre sens intérieur, notre foi, on ne la développe pas. On prend une conscience des sciences qui nous sont enseignées, des philosophies qui nous sont enseignées, une connaissance des choses, mais la connaissance de notre foi, souvent, elle reste assez primaire. Et à cause de cela, en avançant en âge, on souffre effectivement d'une carence. On ne sait plus quelles sont les limites de notre foi. On ne sait plus à quoi correspond notre foi. Donc, une des premières choses qu'il convient de faire, c'est d'éduquer nos enfants avec cette foi vivante en un Dieu présent et qui agit véritablement dans notre vie. Mais après, que chacun d'entre nous, puisque ce n'est pas l'école qu'il fait, et pour cause surtout dans nos pays, que chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, ayons à cœur de développer aussi la connaissance du contenu de notre foi, et ce contenu-là appris, si je peux dire, à travers des livres, à travers des récits, à travers éventuellement des homélies, je ne sais quoi, fécondé par la vie que vous recevez, par les sacrements dans l'Église, par votre vie de prière, chacun d'entre vous, et par un minimum d'assaise, tout cela, ça va, petit à petit, ça va croître, et ça va, la vie en Dieu va vous paraître beaucoup plus facile qu'elle ne paraît au premier abord. Parce que, qu'est-ce que ce Dieu donc, que je vous présentais tout à l'heure, ce Dieu immense qui se fait tout petit pour être à notre dimension, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous la contribution la plus petite que l'on puisse demander. Il ne demande presque rien. Il demande simplement avoir la foi, croire en lui. Mais croire en lui, c'est-à-dire pas croire en un système, mais croire qu'il est présent et qu'il agit dans nos vies. Si on croit ça, on est sauvé. Après, on a envie, évidemment, de voir davantage comment Dieu se manifeste, de le sentir davantage, de voir comment on est unis les uns les autres. Et tout ça fait partie de l'évolution de notre foi. Mais fondamentalement, ce qui est nécessaire, c'est d'abord comment dire, d'avoir la soif, d'avoir la foi, et pour avoir la foi, il faut la lui demander. Si on le demande, c'est aussi parce qu'on l'a déjà. Et aller à l'église de pierre, à l'église construite, sans avoir cette foi, à la limite, ça ne servirait à rien, je dis à la limite, car ça peut servir aussi s'il y a une recherche de quelque chose que l'on ne connaît pas, si on attend une illumination, si on a l'intuition que là, il y a quelque chose qui se passe et qui nous dépasse et auquel on voudrait bien participer nous aussi. Combien, je ne vous demande pas de répondre, mais combien ont vu leur vie changer radicalement à partir du moment où ils ont adhéré avec foi à l'Église, où ils ont communié avec foi, où ils ont participé aux liturgies avec foi. Pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre vous, c'est une véritable transfiguration qui est la preuve, pas par neuf, mais par l'infini, qui est la preuve que Dieu véritablement est présent et qu'il agit parmi nous. Il est véritablement vivant, celui devant lequel nous nous tenons.